Alors déjà, on va pas comprendre. Voilà, c'est le truc qu'on fait, on va pas comprendre, on va reproduire. Voilà, parce que comprendre les séismes, personne ne les lois de Günther-Berg-Richter, personne ne les comprend. Voilà, on les mesure très bien, on ne les comprend pas. Voilà. On n'avait pas forcément l'idée au départ que les fluctuations qu'on allait avoir allaient être celles des séismes. Ce qu'on a voulu faire, c'était d'abord les mesurer, de voir. En fait, moi, je n'aurais pas parié au début, on ne savait pas trop si on allait observer des fluctuations ou pas. Voilà. C'est-à-dire, éventuellement, on aurait très bien pu avoir un mouvement qui était très très régulier. Voilà. Donc, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. On a trouvé qu'il y a des fluctuations qui arrivaient. Et là, effectivement, un truc alors là assez naturel, c'est de savoir est-ce que ces fluctuations-là, des systèmes qui ont des fluctuations de ce type-là, il y en a quelques-uns, dont les systèmes de tremblement de terre. Et donc là, c'est un truc assez naturel de se poser ce type de questions. Voilà. D'où l'idée de se rapprocher de géophysiciens pour faire ça. Mon nom est Jérôme Crassou, je suis professeur des universités à l'Institut de physique de Rennes. Voilà, et donc l'Institut de physique de Rennes, c'est un laboratoire mixte entre l'université et le CNRS qui est sur le campus de Beaulieu. Et donc la collègue ancien chercheur, c'est Axel Hamon, qui est maître de conférence à l'Institut de physique de Rennes. Voilà. Et donc la personne qui finalement a fait les expériences, c'était David Oudou, qui était un étudiant en doctorat, voilà, et qui bon maintenant est parti qui est à Cayenne pour faire enseignant. Enfin, il est enseignant à Cayenne en ce moment. Voilà. On pense que là-dedans, il y a les deux ingrédients fondamentaux sont les mêmes dans les deux systèmes. Deux choses, des milieux qui sont désordonnés. Donc là, des microbilles de verre. Dans l'autre cas, c'est des roches qui sont pas. Enfin, c'est pas un cristal, hein. C'est des roches, donc il y a du désordre. Et puis, dans les deux cas, il y a de la friction. Voilà. Donc friction, parce que là, les billes frottent les unes sur les autres. Hein. Voilà. Et dans les cas des roches, des deux bords d'une faille, ça frotte d'un côté sur l'autre. Donc en fait, ces deux systèmes sont très différents en taille, mais finalement, les ingrédients physiques, qui sont friction plus désordre, sont présents dans les deux cas. Voilà. Donc en fait, on pense que la raison fondamentale pour laquelle on observe les mêmes comportements, c'est parce qu'on a ces deux ingrédients-là au départ. Voilà. Et après, le détail qu'on fasse frotter du sable, des microbilles de verre ou des cacahuètes, et puis du basalte ou du granit, finalement, c'est quelque part assez secondaire. Voilà. Après, évidemment, les tailles des systèmes ne sont pas du tout les mêmes. L'élément de base est vraiment très petit, alors que l'élément de base est quand même notablement plus grand, donc les échelles n'ont pas grand-chose à voir, mais les ingrédients de base, friction plus désordre, a priori, sont là. Identiques pour les deux. Voilà. Donc en fait, c'est en quelque sorte un sable modèle. Voilà. Donc c'est très fin, vous pouvez toucher. Donc là, c'est des billes, c'est des toutes petites billes de verre en fait qui font un dixième de millimètre. Voilà, donc ça ressemble à un sable très très fin. Alors ça a l'avantage juste par rapport au sable d'être un tout petit peu mieux calibré, voilà, un peu plus reproductible. Les lois de la sismologie, Günther-Berg-Richter, Omori, etc., c'est tous les séismes qui peuvent se mesurer de manière naturelle, donc entre des magnitudes les plus gros, c'est 8, les plus petits, c'est magnitude 2. C'est parfaitement connu, donc ça, tout ce que peuvent détecter les sismographes, donc ça, c'est des choses, un travail qu'on n'a pas fait, c'est connu, voilà. Alors nous, après, dans notre système, on a des déformations ici, que nous, on mesure dans notre expérience. C'est la plus petite et la plus grosse, la plus petite et le plus gros taille d'événement qu'on arrive à mesurer dans nos expériences. Voilà. Donc en fait, pour les systèmes naturels, c'est très bien mesuré. Bon, nous, notre expérience, je vous ai montré le film, il y a des fluctuations, il y a la plus petite fluctuation, bon, qui va être quelques, avec notre caméra, ça va être quelques pixels qui vont bouger, les plus gros, c'est l'espèce de gros pâté, et puis voilà, c'est ce qui nous donne, nous, nos plus gros séismes, enfin, pseudo-séismes, et puis le plus petit, c'est ce qu'on arrive à mesurer. Il y a des observations qui ont été faites depuis les années 2000, hein, qui sont assez curieuses. Dans les zones où il y a la fracturation hydraulique, aux États-Unis, eh ben, il y a plus de petits séismes et moins de gros. Voilà. Alors l'idée, c'est que bon, en mettant un petit peu de perturbations mécaniques, on préfère déclencher beaucoup de petits séismes plutôt que se charger doucement et puis de faire des gros séismes. En fait, on espère, ça c'est un prolongement de ce travail, voir si on peut faire la même chose finalement. Si dans notre système, pendant qu'on appuie, on met un petit peu de bruit mécanique, est-ce qu'on voit finalement plutôt le système qui commence à glisser vers qui commence à aller vers un régime où il y a beaucoup, beaucoup de petits séismes et beaucoup moins de gros. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si...
Est-ce qu'on peut parler dans ces cas de prévention des conséquences de l'activité humaine ? Ça pourrait servir à ça ?
Alors, c'est pas nous qui allons le faire. Après, les géophysiciens ont bien remarqué que que l'existence de la fracturation hydraulique pouvait favoriser des petits séismes par rapport aux gros. Après, l'idée d'essayer de contrôler des failles sismiques pour finalement toujours avoir un petit peu de sismicité douce plutôt que de grosse sismicité. Je ne sais pas si on y viendra un jour, quoi, mais bon, voilà.
Là, donc, vous avez parlé de l'équipe pluridisciplinaire, on a vu l'Institut des sciences, vous, votre institut de physique, voilà, des gens de l'Université Savoie-Mont-Blanc, Grenoble-Alpes. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler de façon interdisciplinaire comme ça ? Et surtout, quels sont les avantages et les difficultés à travailler avec des équipes aussi pluridisciplinaires ?
Alors, l'habitude, un petit peu. Alors déjà, naturellement, un petit peu, cette recherche était à l'interface entre vraiment la physique et la mécanique. Donc on est en fait un peu habitué à... Bon, alors vous allez me dire, la mécanique, c'est de la physique ? Non, pas tout à fait. Alors là, l'avantage de travailler avec des géophysiciens est énorme dans notre cas, parce qu'en fait, ils ont une connaissance une connaissance des lois de comportement, et en particulier il y a un collègue qui a fait des travaux très avancés sur la caractérisation la caractérisation de ces fluctuations, des corrélations de fluctuations. Nous, on n'avait juste pas cette compétence là voilà. Donc là, c'est vraiment, on a été chercher la compétence exactement où elle était, et puis même le bon, je pense que on observe un système avec des fluctuations, on se dit c'est y ressemble, mais entre dire c'est y ressemble vu par un physicien, enfin, nous on n'est pas des spécialistes de ce genre de trucs, enfin, l'Institut de physique de Rennes, on n'est pas des spécialistes de ce genre de choses, ça y ressemble, et c'est vraiment parce que il y a des géophysiciens qui ont pu dire oui, c'est plus qu'une impression, c'est statistiquement significatif, voilà.
Vous arrivez à vous comprendre ? Vous avez le même vocabulaire, les mêmes dynamiques de recherche, ou il y a des difficultés des fois ?
On a la chance d'être tombé sur des collègues géophysiciens qui avaient une grande habitude déjà de parler à des physiciens. Voilà. Et donc, en fait, il y a vraiment très très peu de problèmes de communication. Voilà. Alors après, ils ont leur problématique et leur intérêt propre. Et puis nous, on a aussi des intérêts propres. Mais en fait, on arrive vraiment très très bien à se comprendre... sur la partie commune, voilà. Ils ont des compétences qu'on n'a pas, mais par contre qu'on pense comprendre raisonnablement, voilà, et réciproquement. Voilà. Mais bon, là, c'est vraiment parce qu'on est tombé sur les bonnes personnes, voilà.
Comment est-ce que vos trouvailles là sont aujourd'hui accueillies par le monde de la recherche, tant en termes d'être voilà, impressionné par ce que vous avez fait, et puis peut-être du futur de vos recherches, comment ils vont pouvoir se les réapproprier?
Alors là, c'est un petit peu tôt pour le dire, hein, parce que le temps de discuter avec les collègues, etc. C'est un sujet qui est assez, c'est un sujet qui est assez débattu. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de conférences scientifiques parce que tout est un petit peu bloqué. Et puis bon, ça fait quand même que ça vient d'être publié. On a vraiment hâte de pouvoir en discuter fermement avec des collègues. Voilà.